Vous ressentez des inconforts digestifs ou vous souhaitez stimuler votre immunité. Vous pensez aux probiotiques pour vous aider. Vous essayez, mais vous ne ressentez aucune efficacité. Pire, cela vous donne peut-être des ballonnements.
Le lactobacillus est une souche de bactéries probiotiques naturellement présentes dans notre système digestif. Elle permet de maintenir un équilibre sain des bactéries intestinales et prend soin de votre microbiote.
Les probiotiques semblent être des ingrédients de santé naturelle puissants. Mais quand on analyse scrupuleusement les études, les résultats paraissent contradictoires. Que faut-il en penser ?
Les probiotiques, c'est tout simplement un ensemble de micro-organismes, des levures et des bactéries qui vont exercer un effet bénéfique quand on en consomme. Un effet bénéfique au niveau intestinal. Vous savez que dans notre intestin, on a énormément de bactéries et de levures qui forment ce qu'on appelle notre flore intestinale, qu'on appelle aussi notre microbiote, et qui permettent à notre organisme de digérer efficacement et aussi de stimuler notre système immunitaire.
On parle aujourd'hui de prébiotiques, symbiotiques, postbiotiques, on parle aussi de microbiotiques.
Le terme probiotique, c'est le terme le plus proche quelque part qui nous permet de décrire l'action positive de bactéries bénéfiques suite à l'utilisation dans des opérations de nettoyage. Et d'où la naissance de la terminologie nettoyage probiotique, que ce soit en Europe, mais aussi aux États-Unis.
La science actuellement et depuis plusieurs années sur tout ce qui est microbiote, ce qu'on appelle aussi microbiome, c'est-à-dire l'ensemble des gènes de tous ces micro-organismes qui nous habitent, et ils sont des centaines de milliards, c'est 10 fois plus que nos cellules. Donc toute cette science-là est en train d'exploser. En fait, plus la science se penche sur tout cela de façon précise, plus elle découvre des nouvelles choses qui remettent tout en question.
Un probiotique, ça a une définition officielle internationale qui est de dire que c'est une bactérie, ça peut être aussi une levure vivante, qui, quand elle est administrée en quantité suffisante à une personne, permet d'obtenir des bénéfices pour la santé.
Les prébiotiques, eux, sont l'aliment des bactéries, ou dit en langage plus technique, les substrats qui sont utilisés sélectivement par les micro-organismes hôtes, conférant un bénéfice pour la santé.
On va ajouter des effets positifs des probiotiques, donc des bactéries, des micro-organismes, aux propriétés d'un nettoyage avec un détergent classique.
En fait, il existe 5 familles de prébiotiques issues de l'alimentation. Donc les fibres non digestibles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas digérées dans l'intestin et arrivent jusqu'au côlon. C'est l'endroit où il y a la plus grande majorité de nos bactéries intestinales. Parmi les fibres, nous avons les amidons résistants, les fructanes, les bêta-glucanes et les autres fibres. La 5e famille est celle des polyphénols que l'on rencontre dans tous les fruits et légumes. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque prébiotique va permettre de nourrir un groupe de bactéries spécifiques.
Aujourd'hui, le nom probiotique a été changé officiellement pour microbiotique. Donc probiotique, microbiotique désignent la même chose.
C'est quoi la dysbiose? En fond, c'est un déséquilibre de la biodiversité de notre flore intestinale qui se traduit bien souvent par une baisse importante du nombre de bactéries présentes dans notre flore intestinale et une augmentation des mauvaises bactéries au détriment des bonnes bactéries. C'est un déséquilibre carrément et ça se fait parfois au profit de moins bonnes bactéries qui prennent le dessus et des bonnes bactéries qui ne sont pas en assez grand nombre.
C'est justement là que la science confirme en fait ce que disait Hippocrate il y a bien longtemps, que toute maladie commence dans l'intestin et que l'intestin est à la source de tout au niveau de la santé.
Ils améliorent généralement l'état global, que ce soit aussi bien physique que psychologique. Ils atténuent la fréquence et l'intensité des douleurs abdominales, réduisent les ballonnements et les flatulences et régularisent le transit intestinal. Enfin, ça, c'est la théorie. Moi, perso, ça m'a jamais rien dit.
Les bactéries de l'intestin, elles doivent être dans un certain équilibre, une certaine symbiose. Et pour cela, elles ont un rôle, mais il y a différentes familles qui doivent être en équilibre. Donc, le problème, c'est que souvent, on a des déséquilibres de cette flore. C'est ce qu'on appelle la dysbiose. Elle peut être très différente. Hein. Il y a différents déséquilibres dans la dysbiose.
Quand on va utiliser des bactéries probiotiques dans des détergents, on va utiliser en fait des bacillus qui vont être des bactéries environnementales et qui vont quelque part être assez éloignées des bactéries qui peuvent être pathogènes.
Ce qui est très important, c'est que les probiotiques donc, ne constituent qu'une petite armée qui a pour but de relancer notre armée de base. Donc c'est simplement, ce qu'on fait, c'est apporter une armée pour relancer notre armée de base et relancer la machine. Donc notre santé, elle passe non pas par les probiotiques, mais par notre microbiote de base. Et donc, normalement, si on a un problème léger, un problème de diarrhée, etc., prendre des probiotiques pendant 3-4 jours, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que je considère qu'un minimum de 3 semaines est le minimum minimorum. Et on passe ensuite à 3 mois si nécessaire.
Alors, il faut bien retenir que la digestion se fait principalement grâce à des enzymes, mais aussi à des bactéries. On pense souvent que la digestion, il suffit d'enzymes et puis les nutriments sont digérés et ensuite ils sont absorbés. Alors c'est pas tout à fait comme ça. Dans l'intestin, nous avons énormément de bactéries qui sont là à la fois pour nous aider à digérer et pour nous aider à absorber les nutriments.
La flore intestinale a de multiples rôles et notamment le premier rôle auquel on peut penser, c'est l'immunité, puisque les cellules immunitaires se logent à 80% dans l'épithélium, la muqueuse intestinale.
Le problème, c'est que les études sont très difficiles à mener parce que justement chacun a un microbiote particulier, une génétique particulière, une alimentation particulière. Et surtout, a priori, ce dont on est en train de s'apercevoir, c'est que certains auraient un microbiote qui serait plutôt hospitalier pour les probiotiques apportés de l'extérieur. Ces probiotiques-là pourraient éventuellement avoir un petit effet, quoique passager. Et d'autres auraient un microbiote qui dirait...
Ce microbiote, il a un rôle sur votre transit. Ça évite la constipation, mais ça évite aussi les diarrhées. Il a un rôle de réduction de l'inflammation chronique de l'intestin. Donc tout ce qui est missile et maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, on a intérêt à avoir un bon microbiote pour diminuer ça.
Selon le probiotique, le mécanisme d'action ne sera pas le même. Qui peut par exemple contribuer à resserrer les cellules qui constituent la paroi de l'intestin. Il peut aussi s'accrocher à une méchante bactérie qui va pas bien et l'empêcher de continuer à nuire.
Tout ce qu'on mange, en effet, c'est plein de bactéries. C'est pour cette raison-là qu'on retrouve au niveau de l'intestin une grande partie de notre système immunitaire. 70% effectivement de notre système immunitaire se localise autour du tube digestif pour nous défendre contre les infections potentielles.
Alors, les prébiotiques, c'est la nourriture du microbiote intestinal. Donc, il faut savoir ici qu'on a un deuxième cerveau. C'est lui, en réalité, qui dirige tout l'organisme, hein, ce deuxième cerveau qui s'appelle système nerveux entérique, eh bien lui, il va gouverner en quelque sorte le reste des organes. Et il a besoin de nourriture, puisque c'est un organe, donc il doit manger, et c'est comme ça qu'il va pouvoir se préparer, se défendre, donc bien nourrir les bonnes bactéries, et prévenir l'intrusion des mauvaises bactéries qui seraient toxiques pour notre organisme.
Les probiotiques, ce sont des bactéries présentes dans l'intestin, des lactobacillus par exemple. Par le stress ou par effectivement une mauvaise alimentation, on en manque. Et donc à un moment donné, pour que l'intestin fonctionne normalement, on vient en rajouter tout simplement dans l'intestin.
Et c'est comme ça qu'il va pouvoir se préparer, se défendre, donc bien nourrir les bonnes bactéries, et prévenir l'intrusion des mauvaises bactéries qui seraient toxiques pour notre organisme. Et il se nourrit de quoi ? Il se nourrit essentiellement de fibres alimentaires, donc c'est-à-dire les fruits, les légumes, etc. Et puis de l'oligofructose, qui est un produit qu'on trouve dans le miel, qu'on trouve dans l'artichaut, par exemple, et qui va permettre de donner de la nourriture à ce microbiote. Et un microbiote en bonne santé, un microbiote équilibré, c'est un élément très important de la santé humaine aujourd'hui, et ça va permettre de prévenir un certain nombre de pathologies.
Il y a des études qui montrent le lien entre un bon microbiote et la diminution de tous les problèmes cutanés, que ce soit l'eczéma ou les plaques, l'atopie, même l'acné. En fait, il y a un lien entre la peau et le microbiote. De même sur tout ce qui est allergie, hein, il y a des études qui montrent le lien entre un bon microbiote et la diminution des allergies. La protection de toutes les flores, de tous les microbiotes que nous pouvons avoir dans l'organisme, que ce soit le microbiote buccal, vaginal, cutané, nous avons des microbiotes à tous les niveaux et il y a des connexions permanentes entre le microbiote intestinal et les autres microbiotes. Aujourd'hui, on découvre de plus en plus de liens entre la santé mentale, la santé cérébrale, le moral, le bien-être psycho-émotionnel et l'intestin et particulièrement le microbiote. On connaît aujourd'hui aussi le lien entre le microbiote et tout le métabolisme de l'insuline, du sucre, donc tout ce qui va être prise de poids, diabète, maladie métabolique. Le microbiote régule également le taux de cholestérol sanguin et a un impact sur la fertilité. La liste est infinie.
Les postbiotiques sont les produits que fabriquent nos bactéries. Donc ces produits comprennent les métabolites sécrétés ou libérés par les bactéries le plus souvent suite à un processus de fermentation, donc tels que des vitamines, des enzymes, des acides gras à courte chaîne, des neurotransmetteurs comme le GABA, ou alors des composants même de la paroi de la bactérie qui va avoir un impact direct sur notre...
Les probiotiques ont été réellement utilisés et proposé par Metchnikov au début du XXe siècle, qui était un chercheur russe qui est venu en France, qui a eu le prix Nobel, non pas pour ça, mais pour l'étude de l'immunité, et qui avait trouvé que les gens qui mangeaient des yaourts en Bulgarie vivaient plus longtemps que les autres. Et donc il en a fait une espèce de jouvence. Les microbes qu'il y avait dans les yaourts, c'était la jouvence, la nouvelle jouvence. On est sûr que chez les hommes, il y a deux choses, c'est qu'ils voudraient devenir immortels, ne jamais vieillir, et ils ont peur de tout. Donc c'est les constantes auxquelles nous, on est confrontés.
Donc là, on est dans l'intestin. Vous avez une barrière qui se fait sous la forme d'une paroi. À l'extérieur, vous avez normalement des micro-organismes, des bactéries, des molécules qui empêchent de l'inflammation, ce qu'on appelle finalement le microbiote, qui permet à votre intestin d'être bien perméable, c'est-à-dire d'empêcher les bactéries de passer. Ce qui veut donc dire que vos cellules du système immunitaire sont performantes. Le problème, c'est que lorsque votre microbiote est perturbé, notamment par une mauvaise alimentation, eh bien, les bactéries présentes, elles vont passer plus facilement puisque la perméabilité de la paroi est plus importante et donc les bactéries, elles passent. Les cellules du système immunitaire, elles sont moins nombreuses, vous développez des maladies auto-immunes et puis les molécules qui normalement empêchent l'inflammation, eh bien, elles sont moins présentes et ça favorise aussi des maladies inflammatoires, notamment du tube digestif.
Rapidement, on s'est rendu compte, et lui s'est rendu compte, qu'il y avait un certain nombre de microbes qui luttaient d'une manière efficace, quand on les prenait par la bouche, contre les agents de diarrhée. Parce qu'ils rentrent dans un écosystème, c'est-à-dire dans un monde qui a plein de microbes, il y a des microbes qui donnent la diarrhée, et ces microbes luttent contre les microbes qui donnent la diarrhée. Et il y a des produits qui sont commercialisés, dont l'efficacité a été démontrée par de multiples études, comme l'ultra-levure par exemple, qui sont des médicaments qui sont efficaces pour lutter, pour prévenir les diarrhées et pour lutter contre les diarrhées. C'est une chose qui est établie.
Les chercheurs de l'INSERM ont réussi à montrer, c'est qu'en rajoutant une bactérie sous forme de probiotique, eh bien on pourrait protéger cette barrière intestinale. C'est une nouvelle révolution encore pour comprendre que le microbiote, c'est bien plus compliqué que la simple digestion.
Alors en fait, faut savoir déjà que le microbiote intestinal, on connaît sa composition précise depuis peu de temps finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque c'est 2008, grâce à de nouvelles techniques de métagénomique qui ont permis, grâce à l'ADN, en récupérant l'ADN des bactéries et des parasites, virus et autres du microbiote intestinal, d'identifier vraiment ce qu'il y avait. Donc 39 000 milliards de bactéries, je le rappelle, c'est considérable, 1,4 à 2 kilos et 1000 espèces différentes.
En se multipliant, une fois appliqués sur les surfaces, les produits probiotiques vont produire des enzymes. Quatre types d'enzymes principaux, ça va être les protéases, les cellulases, et les amylases et les lipases. Et ces quatre enzymes, en fait, vont dégrader les salissures qui sont présentes et qui sont incrustées, par exemple, dans les joints de cartilage, et vont vraiment provoquer, du coup, un effet visuellement plus propre en dégradant cette salissure.
Alors, moi, je l'appelle le premier cerveau ou patron du corps humain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, deuxième cerveau, ça voudrait dire qu'il dépend du cerveau, du système nerveux central. Or, en fait, c'est l'inverse. Puisqu'on sait aujourd'hui qu'en cas de dysbiose intestinale, par exemple, on va avoir différents troubles, stress, anxiété, troubles de l'humeur. Et en fait, notre santé, elle est régie et régulée par le microbiote intestinal et non pas par le système nerveux central.
Les prébiotiques, ce sont simplement des fibres alimentaires qui vont être la nourriture des bactéries. Il faut savoir que le microbiote, votre microbiote, il est le reflet de votre alimentation.
Et puis, vous avez les postbiotiques. Les postbiotiques, c'est des substances fabriquées par nos bactéries. Et ces postbiotiques ont un effet anticancéreux et aussi métabolique, c'est-à-dire en termes de régulation de la glycémie, du cholestérol, etc.
Quand on vous rabâche, quand on est en nutrition, qu'on vous rabâche de manger des végétaux, une des raisons est celle-ci, c'est qu'ils permettent de fournir à votre microbiote la nourriture pour les bonnes bactéries qui vont ainsi se multiplier. Et donc, vous allez avoir un effet positif à consommer des végétaux grâce à leur teneur en prébiotiques.
Il faut absolument savoir quelle souche vous allez prendre, parce que c'est la souche qui a été étudiée cliniquement, scientifiquement, et c'est à elle qu'on a donné une allégation santé. Donc on peut avoir deux probiotiques qui ont le même nom de famille, mais qui n'ont pas la même souche, et du coup qui vont avoir des actions complètement différentes.
Quand on a un microbiote normal, on a un mélange de plein de types de bactéries différentes, et si on veut essayer de simplifier les choses, on va avoir des bactéries qui sont anti-inflammatoires, qui vont, on va dire, favoriser la paix dans notre intestin. Et puis, on a des bactéries pro-inflammatoires, on peut dire aussi qui stimulent l'immunité. On a aussi besoin de certaines de ces bactéries en quantité réduite pour que notre système immunitaire soit stimulé. Et en situation normale, on a un équilibre qui fait que ces bactéries qui activent l'inflammation et l'immunité ne sont pas délétères. Et on a un état de paix, finalement, dans notre intestin.
Alors, les psychobiotiques, c'est des probiotiques ou des prébiotiques, d'ailleurs. Le terme psychobiotique regroupe les deux, prébiotiques et probiotiques, mais on va parler des probiotiques. C'est des souches qui ont été identifiées chez l'humain comme ayant une influence sur le cerveau. C'est-à-dire qu'elles vont modifier le microbiote, dans le bon sens, et elles vont augmenter la fabrication par l'intestin de la sérotonine. Je vous rappelle au passage que la sérotonine, qui est la fameuse hormone du bonheur, est fabriquée à 90% par l'intestin, et pas par le cerveau. Que ça va faire baisser le cortisol, qui est l'hormone du stress, et donc, par voie de conséquence, ça va envoyer des informations au cerveau positives, et ça va réduire stress, anxiété, et même troubles de l'humeur.
Les probiotiques de nouvelle génération, l'idée, c'est d'aller prendre des bactéries qui viennent de l'intestin, dont l'habitat naturel est l'intestin, qui ont des fonctions naturellement dans l'intestin et qu'on aura sélectionnées de manière rationnelle pour leurs effets biologiques.
Présenté sous forme de capsules, c'est un excellent moyen d'améliorer votre digestion, prendre soin de votre microbiote et surtout d'agir sur votre poids.
Ce microbiote a des rôles particuliers. Donc, on sait qu'en particulier, il empêche des méchantes bactéries de s'implanter. On sait qu'il va permettre de fabriquer des vitamines. On sait qu'il va influencer les fonctions de l'intestin, l'immunité, et peut-être même être lié à certains troubles nutritionnels comme l'obésité.
Introduit chez la souris sans microbiote, le microbiote d'une personne obèse rend l'animal obèse, contrairement au microbiote d'une personne mince. De plus, une souris avec un microbiote de mince peut l'emporter contre le microbiote obèse à condition qu'elle suive un régime adéquat.
Des études ont démontré que le lactobacillus peut aider à réduire les ballonnements et les flatulences, favoriser la digestion, renforcer le système immunitaire et réduire l'inflammation au niveau des intestins.
Aujourd'hui, on commercialise très facilement une bactérie avec un joli nom, mais dont on n'a pas la moindre idée du bénéfice. Et comme la demande est forte, à ce moment-là, ça incite les fabricants de ces produits, qui sont en général des compléments alimentaires, à les mettre sur le marché.
Si le microbiote transmet l'obésité, à l'inverse, en modifiant le microbiote intestinal avec l'apport de probiotiques et de prébiotiques, on peut arriver à perdre du poids.
Il faut savoir que les Bifidobacterium adolescentis et Bifidobifidum, elles vont protéger contre les infections par des bactéries pathogènes, elles vont stimuler les mouvements péristaltiques pour empêcher la constipation, elles stimulent le système immunitaire, elles évitent les ballonnements et les gonflements abdominaux, elles réduisent la putréfaction intestinale et elles évitent les problèmes d'anxiété et d'hyperactivité, notamment au niveau du Bifidobacterium adolescentis.
Plusieurs études ont démontré l'efficacité du L-gacérie pour diminuer l'indice de masse corporelle, et notamment deux études japonaises portant sur des personnes qui présentaient un excès de graisse abdominale. La première étude portait sur 87 personnes qui présentaient un indice de masse corporelle supérieur à 25 et qui avaient un excès de graisse abdominale. La moitié d'entre elles a pris du lait fermenté pendant 12 semaines, pendant que l'autre moitié prenait du lait fermenté enrichi en L-gacérie.
Ensuite, les effets de la souche Lactobacillus plantarum ont été démontrés scientifiquement au travers de plusieurs études. Effets sur la réduction du poids corporel, de l'accumulation de masse grasse, réduction du taux de cholestérol, de triglycérides.
Les résultats ont démontré que les personnes qui avaient consommé le lait enrichi en L-glycérine avaient perdu en moyenne 1,7 cm de tour de taille, 1,5 cm de tour de hanche, 1,1 kg et 0,4 d'IMC, comparativement aux personnes qui avaient ingéré le lait non enrichi en L-glycérine. Par ailleurs, leur zone graisseuse viscérale avait diminué en moyenne de 4,6%. La seconde étude qui portait sur des adultes sains a démontré une réduction de cette graisse viscérale de 8,5%.
Le microbiote intestinal des patients en surpoids ou en obésité a trois caractéristiques principales. Il est moins varié que dans la population générale. Deuxièmement, il est moins riche en bonnes bactéries, donc c'est les bifidobactéries et les lactobacilles. Et enfin, à l'inverse, il est riche en firmicutes, qui sont des mauvaises bactéries et qui vont avoir pour caractéristique de stocker la graisse. Donc vous voyez que la dysbiose explique en fait en grande partie l'obésité.
Les probiotiques sont importants pour notre santé, d'abord pour notre digestion, mais aussi pour notre système immunitaire. Mais où trouver les probiotiques dans notre alimentation? Et faut-il avoir recours à une supplémentation? Ou est-ce que notre alimentation apporte suffisamment de probiotiques naturellement?
Une fois qu'il est tiède, votre thé sucré, là vous pouvez mettre votre mère de kombucha au complet avec son liquide à l'intérieur. Ensuite, vous prenez un tissu avec un élastique et vous couvrez tout ça et vous laissez ça sur votre comptoir 10 à 15 jours. De jour en jour, ça va devenir de moins en moins sucré et de plus en plus acide. Et à un moment donné, ça va être à votre goût. Félicitations, vous avez du kombucha.
Ensuite, le kombucha a besoin d'air, donc ne surtout pas fermer de manière hermétique votre fontaine de fermentation, surtout pour la fermentation numéro 1, parce qu'il va y en avoir une deuxième ensuite. Pour la fermentation numéro 1, je vais juste venir déposer un tissu propre que je vais maintenir avec un élastique et je vais venir garder ça au fond d'un placard.
Eh bien, la première source de probiotiques la plus facile à consommer, c'est bien sûr les yaourts. Et là, on n'a pas besoin forcément d'aller prendre des yaourts enrichis en certains probiotiques. Le yaourt de base est déjà un aliment riche en probiotiques, riche en bactéries qui vont renforcer votre flore intestinale.
Pour faire simple, les prébiotiques, c'est la nourriture de tes bactéries à toi, de tes propres probiotiques. Ce sera beaucoup plus efficace d'enrichir ton alimentation en fausse que de prendre des probiotiques. Bien sûr, le mieux, c'est de faire les deux. Alors, tu trouves les fausses dans bananes, pommes, poires, tomates, panais, fenouil, oignons, ail, riz, sarrasin, lentilles, pois chiches.
Les légumes sont une bonne source de fibres et de prébiotiques. Ce sont des substances qui vont permettre de nourrir les bonnes bactéries. Donc quand on dit légumes variés, c'est vraiment l'ensemble des légumes. Tout particulièrement les légumes verts à feuilles, comme les épinards, les crucifères, le chou. Également le brocoli, les poireaux, les asperges, les tomates, les carottes, les patates douces, les betteraves, oignons et ail. Le tout, c'est de les faire varier régulièrement en fonction des saisons, en fonction de votre budget, en fonction également de vos préférences alimentaires.
Quand on donne des probiotiques, l'idée c'est que tu aurais donc un microbiote en dysbiose qui aurait besoin d'un shot de bonnes bactéries. Tu vas te refaire une flore dite bénéfique qui va t'aider à mieux digérer les aliments.
L'ensemble des fruits vont avoir un bon impact sur votre système digestif, mais ceux qui semblent être les plus conseillés, ça va être l'ensemble des baies et des fruits rouges, comme les myrtilles, les framboises. Également, la banane, qui est très riche en prébiotiques. Les pommes, les poires, les raisins noirs, les oranges, les prunes.
Le gingembre a de très nombreuses propriétés, mais sa propriété numéro 1 est d'être anti-inflammatoire. Donc, quand on va avoir une paroi intestinale inflammée, quand on va avoir, par exemple, une colopathie fonctionnelle ou tout simplement d'autres problèmes digestifs, on va bénéficier de la consommation de gingembre parce que ça va avoir un effet anti-inflammatoire. Ensuite, le gingembre accélère la vidange gastrique, c'est-à-dire qu'il aide l'estomac à se vider de son contenu. Donc, le gingembre a un rôle important dans la digestion.
Les légumes lacto-fermentés. On peut réaliser soi-même une lacto-fermentation pour des légumes tels que de la carotte, de la betterave, du fenouil, du céleri. On peut quand même consommer beaucoup de légumes de cette façon. Et en fait, on a une fermentation avec une production également de bactéries, de bonnes bactéries, donc de probiotiques, qui vont favoriser donc notre digestion et stimuler notre système immunitaire.
Ensuite, il y a les aliments riches en polyphénols. Le chocolat noir, le thé vert, le café, l'ensemble des baies et des fruits rouges, puis également le vin rouge avec modération bien entendu, et les épices comme la cannelle, le curcuma, le curry, le gingembre. Mais on retrouve aussi des polyphénols dans l'ensemble des végétaux, des plantes, hein, l'ensemble des fruits, des légumes.
Comment on sait que la F1 est finie? Donc là, moi, ma F1, je l'ai fait dans ce bocal-là, donc c'est petit bocal pareil, hein, un piston mécanique. Et en fait, dedans, il y a un fruit sec qui remonte. S'il remonte, ça veut dire qu'en fait, c'est assez chargé en gaz pour l'avoir fait remonter à la surface. Parce que de base, les fruits séchés, bah, ils sont très denses et ils coulent. Mais quand ils remontent, c'est qu'il est chargé en gaz et que c'est un signe qui nous dit hey, « c'est bon, je suis prêt ».
Les 6 légumes que nous allons utiliser dans cette recette sont la carotte, le céleri rave, le céleri branche, la courgette, le poivron vert, jaune et rouge, et le concombre. Le but ici, c'est d'avoir le plus grand panel de couleurs possible. Plus il y a de couleurs différentes, plus il va y avoir bien sûr d'arômes différents, mais aussi de nutriments et de quantités de souches probiotiques différentes. Voilà. C'est une astuce simple qui va garantir une fermentation plus intense, qui permettra de développer un maximum d'arômes, de nutriments, d'antioxydants et d'enzymes.
Les légumineuses, lentilles, pois chiches. Là aussi, très riche en fibres, riche en prébiotiques.
Je garde la peau. Rappelez-vous que c'est sur la peau des légumes que se trouvent les probiotiques qui vont ensuite assurer la fermentation. Alors bien sûr, hein, certaines parties disgracieuses, comme on peut en trouver sur le céleri rave, auront peut-être besoin d'être retirées, car difficile à nettoyer, mais conserver au maximum la peau des légumes.
Les céréales complètes, l'avoine, le blé complet, le riz complet, le quinoa, le sarrasin, également les pains complets, les farines complètes. Contrairement aux céréales dites raffinées, les céréales complètes ont encore leur enveloppe autour de la graine, et c'est cette enveloppe qui contient des éléments indigestes pour notre système digestif, mais qui nourrissent les bonnes bactéries.
Si vous mettez des fruits et des légumes, coupez-les vraiment en tout petit, parce que ça va prendre du volume, en fait, avec le gaz qui va se charger dedans, et ça va être beaucoup plus difficile à les faire sortir après.
Les fruits secs oléagineux, et certaines graines, les noix, également les pistaches, et puis les graines de lin, graines de chia, graines de sésame. Ajoutez à cela, il faut aussi consommer des aliments qui contiennent des bonnes graisses. Notamment saumon, maquereau, sardines qui contiennent des oméga-3. Vous avez aussi l'avocat, l'huile d'olive.
Et puis il y a un problème avec les probiotiques, c'est que les probiotiques c'est vivant, donc quand vous en prenez, ça passe par votre estomac qui est très acide, donc l'acidité gastrique va tuer ces probiotiques, les inactiver, donc ça ne fonctionnera pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des laboratoires qui produisent des probiotiques les font sous forme gastro-résistante, c'est-à-dire que la gélule qui les entoure résiste à l'acidité gastrique de façon à acheminer le probiotique jusqu'à l'intestin, ce qui permet de les prendre au moment où on veut, pendant le repas si on le souhaite.
En dehors des problèmes majeurs ou en dehors de conditions qui le nécessitent absolument, normalement, un traitement probiotique est un traitement temporaire, de courte durée ou de moyenne durée, et si c'est prolongé, à ce moment-là, on essaiera 10 jours par mois, si nécessaire. Mais donc, le but n'est pas du tout de prendre des probiotiques pendant 12 mois d'affilée.
Si on est tout à fait honnête aujourd'hui, quand on prend des probiotiques, c'est carrément un peu à l'aveuglette. C'est vraiment, tu réinjectes des bactéries et advienne que pourra. Tant que les médecins ne prescrivent pas des tests d'ADN fécal pour qu'on sache en fait quelle est notre flore, bah, ça se fait un peu, comme ça.
Il semble que l'effet positif des probiotiques ne fonctionne que lorsqu'on les prend. C'est-à-dire que tant que vous en prenez, que vous êtes pendant votre traitement, entre guillemets, votre prise de probiotiques, tout va bien. Mais quand vous arrêtez, l'effet rapidement se dissipe. Et donc, ça n'a pas vraiment marché sur le long terme.
Et puis, il y a aussi mettre une petite pincée de vitamine ou de minéral qui, lui, a droit à une allégation santé. Par exemple, on met du magnésium, on a le droit de dire « va vous aider à combattre le stress », mais ce n'est pas parce qu'il y a des probiotiques dans le corps. C'est parce qu'il y a du magnésium. Ça serait plus simple d'acheter du magnésium, mais c'est beaucoup moins à la mode, c'est beaucoup moins cher. Donc ça...
Dans ce kit d'exploration du microbiote, il y a plusieurs choses. Il y a un coton-tige et il y a un petit flacon. Le coton-tige, je vais le plonger dans mon caca. Et ensuite, le coton-tige, je vais le plonger dans ce petit flacon où il y a du liquide. Et en fait, c'est ce petit flacon que je vais envoyer par la poste pour avoir les résultats de mon test d'ADN fécal.
Et bien qu'un bon nombre de ces études aient montré que la supplémentation en probiotiques est à la fois sûre et efficace chez certaines personnes atteintes du SCI, des recommandations fermes sur la dose ou la souche à recommander dans la pratique ne peuvent toujours pas être faites. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quelle souche, quelle dose va fournir des effets chez les gens atteints. Donc, il y a beaucoup de flou quant aux quantités et aux souches précises qui vont avoir des effets.
Le truc, c'est que les probiotiques, c'est devenu un peu un buzzword. C'est vachement à la mode. Voilà, l'autre jour, j'ai vu quoi ? J'ai vu des bonbons probiotiques.